Voilà, toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et on va donc démarrer le dossier de cette émission, un dossier donc consacré à la Russie, puisque nous avons sur le plateau avec nous Yulia Gousseva et Hélène aussi. Hélène, je rappelle que tu tiens une émission sur cette antenne, Les Échos de Grozny, tu peux nous rappeler vite fait
Les Échos de Grozny, c'est le deuxième lundi de chaque mois, de 19h à 20h30. Et on a une rediff, mais elle a bougé, donc je ne m'en souviens plus. Mais je crois que c'est le jeudi matin. Il me semble qu'on doit se réveiller avec Les Échos vers 8h du matin.
Ouais, de toute façon, on a toute la programmation sur le site rfpp.net.
Voilà.
Voilà. Yulia, tu es membre d'un centre de recherche qui s'appelle Praxis. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est ce centre de recherche, qu'est-ce que vous faites? C'est à Moscou, donc, si je ne m'abuse.
Oui, c'est à Moscou. On a des sympathisants dans les autres villes, et même en Ukraine et en Biélorussie. Notre centre a été créé il y a 10 ans déjà à la base de la bibliothèque OTGR Victor Serge. Donc, c'est une bibliothèque de la littérature de gauche, socialiste, anarchiste. Et à la base de cette bibliothèque, les gens qui se sont réunis autour de la bibliothèque, les militants des courants différents de gauche, non membres de partis politiques, ont créé ce centre Praxis qui fonctionne depuis 10 ans, qui gère non seulement la bibliothèque, mais aussi organise les conférences internationales consacrées à l'histoire et l'actualité des idées de gauche. On invite les militants et aussi que les savants qui se spécialisent à ces thèmes. Et on prend part à beaucoup d'initiatives sociales qui ont lieu en Russie parce que, bon, c'est notre engagement. Si nous ne sommes pas seulement scientifiques ou bibliothécaires, nous sommes aussi militants politiques. Notamment, on a, depuis le commencement de la deuxième guerre en Tchétchénie, on a créé une campagne de solidarité contre la guerre en Tchétchénie. On a participé à toutes les manifs, toutes les actions qui ont été dirigées contre cette guerre à Moscou. Et aussi, on a collecté l'aide humanitaire destinée pour les gens qui ont souffert des opérations militaires indépendantes de leur ethnicité.
Mmh. D'accord, donc tu disais, vous avez un site internet
Nous avons un site internet, il y a une petite page en français, j'espère que je serai élargie après, mais maintenant vous pouvez trouver tout à www.praxiscenter.ru.
D'accord. D'ailleurs, donc tu es là en France, on commence par les initiatives, on les rappellera peut-être à la fin de cette émission, mais il y aura donc une soirée en ta compagnie vendredi, et puis il y a également un rassemblement dimanche, Hélène.
Voilà, comme le disait Yulia, en fait, c'est à travers son action pour la Tchétchénie que j'ai fait sa connaissance, puisqu'elle a... Elle a participé donc à l'envoi d'aide humanitaire qu'une association qui s'appelle le Courant syndical avait envoyé en Russie. Elle a fait en sorte que ça soit acheminé jusqu'à Grozny. Donc Yulia, malheureusement, vient peu en France. Donc là, c'était l'occasion. Et vu que c'était prévu, on avait organisé une projo avec elle, qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Ça sera vendredi soir, vendredi 30. À 20h30 à Confluence. En fait, on va commencer par une projection du film Babel Caucase, toujours, qui est tiré de la caravane artistique et syndicaliste qui est partie dans le Caucase au printemps 2007, dont le but était de rejoindre Grozny. Malheureusement, ils n'ont pas pu, les frontières sont restées closes, mais ils ont fait plusieurs étapes festives et de rencontres culturelles au sens très très large en Géorgie. Ils sont passés par l'Azerbaïdjan, donc après ils ont été refoulés à la frontière. Ils ont fait demi-tour et ils sont passés après par les camps de réfugiés en Pologne qui sont majoritairement peuplés de Tchétchènes. Donc ce film que je vous invite à voir sera diffusé. Et après, donc, on aura un débat avec Yulia sur la situation en Tchétchénie et plus largement dans le Caucase Nord. Donc ça, c'était prévu, et ça tient, c'est vendredi, à l'espace Confluence, 190 boulevard de Charonne, au métro Alexandre Dumas, je crois que la Projo doit être à 4 euros.
C'est ça.
Voilà, donc 20h30 la Projo, 22h, on discutera avec Yulia. Voilà, donc ça, c'était l'actualité prévue. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir donc, qu'il y a eu un double assassinat le lundi 19 janvier à Moscou. Donc, on fait un rassemblement dimanche, c'est un rassemblement de protestation pour dire à la fois notre colère et notre tristesse, et pour se recueillir donc, autour de Stanislav Markilov et d'Anastasia Baburova, qui ont été assassinés donc, le 19 à Moscou, en plein après-midi, en plein centre. Ils sortaient tous les deux d'une conférence de presse qu'avait tenue Stanislav pour dire son indignation après la libération du colonel Boudanov. Libération pour bonne conduite. Ce colonel donc, avait été inculpé en 2003 pour l'étranglement et le viol d'une jeune Tchétchène pendant un interrogatoire. Stanislas avait participé à ce que ce mec-là aille en prison, et il y était allé, il devait y aller pour 10 ans, et ils l'ont donc libéré quelques jours avant l'assassinat, je crois que c'était le jeudi. Donc il fait une conférence de presse pour dire qu'il est en colère et qu'il va riposter et qu'il va faire un appel devant la Cour de justice. Ils sortent et là, il y a un mec masqué qui sort un flingue et qui tue Stanislav d'une balle dans la tête. Anastasia, a priori, a essayé de le courser. C'est-à-dire qu'elle a vu ça et elle y est allée quand même, quoi. Et il lui a tiré aussi dessus et il l'a emmenée à l'hôpital et elle est décédée quelques heures après à l'hôpital.
Bon, je pense qu'on y reviendra un peu plus loin dans le cours de l'émission sur ce double meurtre et sur d'autres d'ailleurs, parce que justement c'est ce qui va être un peu l'objet de cette émission. Mais donc le rassemblement aura lieu dimanche
Ah oui, alors dimanche, on voulait le faire à Bobo, on a été obligé de changer de lieu parce que ça n'allait pas. Bref, c'est pas nous qui avons décidé ça, c'est la préfecture. Donc au lieu de Bobo, on va se rassembler à la Fontaine des Innocents. Et d'accord. On le fait à 15h parce que les moscovites vont aussi se mobiliser à 15h. Pour faire un rassemblement. On a appelé nos copains ukrainiens qui vont certainement faire la même chose, qui sont déjà, évidemment, tout le monde s'est déjà mobilisé. Hein, ça ne va pas être la première mobilisation, que ce soit en Russie, en Ukraine, bien sûr, mais voilà, ça serait pas mal qu'ils fassent aussi la même chose. Et y a de fortes chances, là, pour qu'il y ait quelque chose aussi à Rome.
D'accord. Donc on rappellera les dates à la fin de l'émission, mais avant, pour comprendre un peu mieux les enjeux là qui se nouent en Russie. En tout cas, moi personnellement, je suis assez novice sur la situation politique en Russie. Donc est-ce que Yulia, tu pourrais nous dresser en gros un panorama des forces en présence, déjà les forces institutionnelles, comment ça se passe aujourd'hui en Russie, quels sont les partis qui existent, et puis donc déjà les forces institutionnelles, on verra ensuite les forces non institutionnelles.
D'accord, le champ d'activité politique est en train de se restreindre par les autorités, par le président, le gouvernement. Maintenant, beaucoup de partis se sont dissous. Il en reste peu, dont le parti officiellement enregistré. Pour être enregistré maintenant, un parti politique doit avoir 50 000 membres dans la moitié des régions de la Russie.
Ah, d'accord.
Donc, le reste bon, moins d'une vingtaine de partis. Je ne me souviens plus parce que tel ou tel se dessous toujours. Mais bon, au Parlement, on a 4 partis. Donc, le premier, c'est le parti progouvernemental qui occupe les 3/4 des places au Parlement. C'est la Russie unie qui soutient complètement le gouvernement et qui était formée par le gouvernement. Ah, il y a aussi une partie qui faisait un peu d'opposition, mais jusqu'à certains points, c'est le Parti communiste qui a gardé l'héritage stalinien. Et aussi, il y a beaucoup de nationalistes dans ce parti. Parfois, ils se protestent contre telle ou telle mesure proposée par le gouvernement, mais pas d'une façon très active, sinon ils ne seraient pas au Parlement. Il y a encore la Russie juste, un parti soi-disant de gauche, mais aussi pro-gouvernemental, qui était formé d'anneaux et formé des forces différentes politiques, dont les nationalistes russes, qui sont aussi dans ce parti. Et il y a aussi le parti libéral-démocrate de Zhirinovski, une personne fameuse qui peut être connue même en France. C'est un parti nationaliste russe. Qui a été, bon, à cause de la personnalité charismatique de son leader, il attire des sympathies des votants. Mais en fait, elle soutient complètement le gouvernement et ce qu'il propose. Donc, on peut considérer ce parti comme nationaliste et pro-gouvernemental. Voici pour les forces institutionnelles qui sont présentées au Parlement.
D'accord. Donc, si on résume, il n'y a pas d'opposition réelle. Donc, toutes les forces institutionnelles sont derrière le gouvernement Poutine, enfin Medvedev.
Ah oui, bon, il y a aussi un parti Yabloko qui a maintenant une tendance social-démocrate là-dedans. Donc, il y a peut-être plusieurs courants dans ce parti. Qui essaie de faire une opposition, mais aussi pas d'une façon très active. Mm-hmm. Mais ce n'est pas une force de gauche. En fait, on peut le considérer plutôt au centre-gauche, au centre même. Mm-hmm. Il n'est pas présenté au Parlement, bien sûr. Seulement au Parlement local, ils ont leurs députés.
D'accord. Et donc au niveau de, disons, appelons ça l'opposition réelle, comment ça se définit? Est-ce que c'est au niveau des syndicats? Est-ce que c'est des associations? Est-ce que c'est des groupuscules? Enfin, comment ça se passe? Et quelle tendance on a dans la réelle opposition puisqu'on va venir,
Parce qu'il y a des forces oppositionnaires de gauche et de droite. On va commencer de droite, de l'extrême droite. Ce n'est pas une réelle opposition, à mon avis, c'est une autre chose, bien une chose à part. Mais si on parle de l'opposition de droite, il faut nommer Kasparov et son mouvement. Maintenant, son groupe s'appelle Solidarité, Solidarnosti. Il y a les membres de l'organisation de Kasparov, il y a ceux qui ont été issus de Yabloko, etc. Bon, il fait des manifs à la rue. Des fameux marches de ceux qui ne sont pas d'accord. Mais maintenant, c'est presque cessé. Mais bon, ils font une opposition, mais ce qu'ils proposent, ce n'est pas beaucoup mieux de ce que nous avons maintenant.
Mm-hmm. Mais donc, pour les forces de gauche, plutôt, disons.
Pour les forces de gauche, ils ne sont pas... Bon, ils sont malheureusement assez faibles, ils ne sont pas unis, mais bon, il y a plusieurs forces qui essaient de faire quelque chose en flanc de gauche. Bon, il y a des socialistes, il y a des anarchistes qui sont très actifs, notamment. Bon, il y a aussi des mouvements contestataires organisés par des gens, par exemple, par ceux qui... sont chassés de leur logement sous prétexte de construction de nouvelles maisons. Il y a eu beaucoup de contestations sur ce sujet et les gens se sont réunis et bon, beaucoup de militants de gauche leur aident dans leur lutte. Mm-hmm. Il y a aussi des syndicats, les syndicats indépendants, les syndicats ex-officiels soutiennent complètement le gouvernement.
Sans doute.
Bien qu'ils soient majoritaires, mais voilà. Il y a des syndicats autonomes, mais ils ne sont pas encore nombreux, mais peut-être avec la crise, ils vont se développer.
Mm-hmm. Donc, oui, toi dans le, enfin c'est un centre de recherche de lequel tu viens, mais bon, on peut, tu te considères sans doute comme militante de gauche. Enfin, j'espère pas me tromper. quelles sont les formes de lutte que vous mettez en place justement sur, notamment disons sur la l'avancée de la démocratie, enfin ou en tout cas la défense de la démocratie en Russie, je sais pas.
En fait, le choix de forme de lutte ne dépend pas complètement de nous. Il dépend aussi du gouvernement, parce que le gouvernement a pris l'habitude d'interdire les manifs, les piquets de grève. C'est très difficile d'organiser des actions dans les rues à Moscou. Donc, on est obligé de faire ce qu'on peut. Ainsi, on participe à des manifs organisées par d'autres forces. Certaines forces de gauche, de l'opposition de gauche, publient leurs journaux, ils arrivent à publier. Par exemple, les anarchistes publient pas mal de périodiques. Mais en fait, ça devient de plus en plus difficile. Parce que nous, en Praxis, on a publié aussi un journal il y a 3 ans. Mais après, on a eu des problèmes. Les imprimeries ont refusé de le publier. Mmh. Et on s'est concentré sur le site web. Donc, on publie des choses, on fait des réunions. Mais c'est aussi difficile de trouver les places pour les réunions. Mais on arrive à organiser quelque chose, des réunions, des rencontres.
Peut-être tu peux citer les exemples des tracasseries que vous avez eues pendant le forum social. C'est-à-dire qu'on vous attendait à la gare, on a déplacé votre manif.
Oui, parce que bon, c'était vraiment une mobilisation policière contre ce deuxième forum social qui s'est passé en 2006, en juillet 2006 à Saint-Pétersbourg. Bon, parce que beaucoup de militants de gauche qui ont voulu y participer ont été persécutés par la police. La police a arrêté les bus. Nous avons participé, nous avons réussi à prendre part à ce forum social, mais je pense que c'était à cause des étrangers qui étaient avec nous. Parce qu'il y a eu des militants étrangers qui ont voulu y participer, alors on n'a arrêté personne. Mais la police était, comment dirais-je, c'était dans ma cour. Mm-hmm. Les gens sont venus regarder directement. Et puis, quand nous sommes sortis, la police a interpellé les voisins, ils ont demandé les voisins, interrogé les voisins sur l'activité subversive de moi et mon mari, qui est aussi militant. Et puis, à la gare, on a demandé, on a vérifié les documents de ceux qui ont voulu aller à Saint-Pétersbourg, etc., et demandé pourquoi vous y allez, n'irez surtout au forum social. Je dis pourquoi pas.
dans le forum social, si mes souvenirs sont bons, il y a quand même des gens dont on a perdu la trace parce qu'il y avait des gens qui venaient très loin, parce que la Russie a plusieurs fuseaux horaires, donc pour se rendre au forum, c'était un peu une aventure. Et il y a des jeunes gens dont on a perdu la trace pendant juste le temps du forum, quoi. Après, on les a retrouvés, mais donc Julia a été suivie, sont restés en bas de chez elle, pistés dans le métro, etc. Et il faut savoir qu'en Russie, on peut aussi alors sur les interdictions des manifestations, ça, c'est on pense bien que ça existe, mais on peut aussi vous demander de faire une manif dans un terrain vague assez loin, ou vous donner une amende quand le nombre de participants à cette manifestation est supérieur à celui que vous avez déclaré, quoi.
Ah, parce qu'on doit déclarer le nombre de
participants. Bien sûr, évidemment. Donc voilà, les formes de lutte, elles sont
très difficiles, voilà. Quoi. Enfin ouais, c'est ouais. En fonction. On va revenir tout de suite sur la répression.
Продолжение следует...
C'était Tchibourachka, Niesh Zvaïr Drouziei, ne mange pas tes amis.
Excellent.
Voilà.
Donc, un groupe antifasciste, n'est-ce pas ou libertaire, je ne sais pas.
Je ne sais pas. Si je sais ça ne fait pas partie non,
non.
des... La,
en tout cas, avec un nom drôle, on va dire.
Oui. Ça ne fait pas partie des groupes antifas, je ne crois pas.
Bon, alors, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel et on est en compagnie, de, donc, dans les oreilles loin du front, de Yulia Gousseva. Et donc on en était un peu sur quelles formes de lutte peuvent se mettre en place avec une telle répression aujourd'hui en Russie. Ce qui nous a aussi interpellé ces derniers temps, donc c'est toute une série d'assassinats de personnalités du monde militant, donc que ce soit donc des journalistes, donc Stanislav
Markelov,
qui était aussi avocat mais militant connu de la cause antifasciste, et des journalistes, des syndicalistes, mais donc ce qui les lie à chaque fois, c'est que ce sont des gens très, très impliqués au-delà de leur métier ou de leur fonction.
En fait, il y a plusieurs agressions. Ça date... y en a toujours eu, hein, mais là, il y a eu une accélération pour reprendre que les derniers, parce que, bon, malheureusement, faire une liste... Ben, voilà. Mi-novembre, il y a eu l'agression dont on a un peu parlé en France quand même, donc de Karine Clément, qui est cette sociologue française qui vit et qui travaille à Moscou depuis plus de 10 ans, et qui prend une grosse part dans les mouvements sociaux, notamment sur la lutte pour le logement, et qui anime un site de l'action, l'Institut d'action collective, qui serait l'équivalent d'Indymedia. Enfin, il y a déjà un Indymedia, hein, mais bon, c'est pour situer un peu, un peu l'activité. Et bon, elle est clairement militante et est connue pour ça. Et donc, elle s'est fait déjà tabasser deux fois près de chez elle, en bas de chez elle. Pique ton sac, etc., etc. La dernière fois, ils lui ont planté donc une seringue dans le genou en plein Moscou, alors qu'elle se rendait à une conférence sur la crise.
Donc, il y a eu elle, ça nous a beaucoup émus, parce que c'est une camarade en plus, mais bon, il y en a eu plein d'autres à ce moment-là. Oui. Ça a été, donc, il y a eu donc, ce journaliste, Mikhail Beketov, journal d'une région qui s'appelle Rimki, qui est à côté de Moscou, qui dénonçait des actions mobilières contre une forêt du coin. Et lui, bon, on l'a tabassé. Il est sorti du coma, mais il est quand même... il a l'agonie, quoi. Enfin, l'a amputé d'une jambe et d'une main, si mes souvenirs sont bons. À côté de ça, il y a eu aussi le tabassage d'Alexis Yetmanov, qui est président du syndicat indépendant d'usine Ford de la région de Saint-Pétersbourg, qui lui a été attaqué et qui a riposté. Enfin, il y a eu une accélération comme ça et... Et donc, on est arrivé à ce qui s'est passé, il y a 15 jours. Quoi. Mmh.
Donc oui, Yulia, est-ce que justement, on pourrait revenir justement sur les... Bon, là tu faisais référence, Hélène, donc il y a eu une série d'assassinats, il y a eu toute une série aussi d'agressions. Enfin, je veux dire, c'est les formes
d'intimidation
ouais. sont multiples. Et donc, est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur qui étaient Stanislav Markelov et Anastasia Baborova?
Bon, moi, je connais Stanislav depuis 14 ans. Il était notre camarade, il était militant, il était avocat, il était bon homme de loi, il faisait son métier, mais en même temps, il était militant et il a défendu les Tchétchènes victimes de crimes de guerre, il a défendu les syndicalistes, il a défendu les antifas, les familles de victimes de fascistes. Donc, il était assez connu comme avocat aussi à cause de sa position... sa position nette et claire. Et aussi, il a participé au mouvement contre la guerre. C'était lui qui était co-organisateur du séminaire sur la guerre en Tchétchénie au deuxième forum social dont je viens de parler. Donc, on était ensemble organisé cette section sur la Tchétchénie là-bas.
Et puis bon, enfin plus largement, il était connu pour être l'homme qu'on appelait l'ennemi quand il y avait un problème, surtout pour les antifas, quoi. Et il prenait part, enfin il avait un discours politique, quoi. C'est un mec engagé, c'est-à-dire un mec qui va dans les
formes sociaux. Il était socialiste, il était démocrate. Il n'a jamais caché ses convictions. Il a agi conformément à ses convictions. Moi, je ne connaissais pas personnellement Anastasia, mais bon, elle était étudiante. Elle était journaliste à la Nouvelle Gazette, un seul journal indépendant qui existe en Russie, un seul journal qui est distribué tout territoire russe, parce qu'il y a des petits journaux indépendants locaux, mais ça, c'est une autre chose. Elle a été militante aussi, militante du mouvement écologiste notamment. Elle était libertaire et elle a écrit... beaucoup d'articles sur les fascistes. Elle a dénoncé les fascistes dans ses articles, donc c'était aussi sa position. Elle exprimait ses opinions dans ses articles. Mm-hmm. Donc c'était un journaliste militant, quoi.
Sur la jeunesse protestataire aussi, et notamment on a appris qu'elle avait pris part à l'action russe de soutien à ceux de Tarnak. Puisque les gens de Tarnak sont assez connus dans le milieu russe, ils leur ont dédié un site de soutien en russe, etc. Et d'après ce que j'ai entendu, Anastasia doit participer à l'action qui consistait à balancer des TGV en carton contre l'ambassade de France.
Excellent.
En soutien. Et donc, d'accord. Je pense que c'est aussi à ce titre qu'il y aura certainement une prise de parole... Pour sa mémoire, quoi, samedi pendant la manif. Mmh.
Très vite, vu pour en revenir à... c'est évidemment la perte d'amis, de militants, etc. Mais si j'ai bien compris, quand on en a discuté en préparant cette émission, l'état de la justice en Russie est absolument... C'est très difficile de trouver des avocats qui vont défendre des militants, qui vont défendre, c'est ce que j'avais cru comprendre. Donc voilà, Stanislav n'étant plus là, ça va être...
Ah oui, parce que pour Stanislav, c'est, bon, c'était sa position, il s'est pris volontiers des affaires comme ça, des affaires de syndicalistes, des familles de victimes, des Tchétchènes notamment. Bon, pas chaque avocat pourra le faire.
Oui, c'est ça.
Sa place.
Oui, ouais. Ouais, et puis... Le fait qu'il fasse ça, il croyait vraiment que c'est une justice existe en Russie, il y a un droit, et, il faut l'appliquer. Il voulait se battre lui dans ce cadre-là aussi. Il a eu des victoires. Hein, et je voulais souligner notamment qu'il avait créé l'Institut de la suprématie du droit, qui est à Moscou et qui rassemblait des avocats, des juristes et des journalistes dans les différentes régions de Russie, qui faisaient remonter comme ça l'information et qui plaidaient aussi. Et c'est comme ça, moi, que j'ai fait sa connaissance, en fait, puisqu'on a organisé avec son institut un séminaire sur la situation caucase au Forum social l'année dernière en Suède. Et donc, il est venu avec plein d'avocats donc qui parlaient vraiment des cas en Daghestan, en Ingouchie, en Tchétchénie.
Donc, bah, pour revenir un peu plus sur cette répression, donc on voit bien que ça cible donc des militants connus, des mouvements sociaux, très clairement, et notamment le mouvement antifasciste. Alors, qu'est-ce que représente le mouvement antifasciste en Russie ? Enfin, c'est qui ? Parce qu'apparemment, enfin, c'est quand même une des cibles principales.
Je ne suis pas beaucoup impliquée à ce moment, en fait. Je suis antifasciste, mais bon, j'ai d'autres... je milite aussi dans d'autres domaines. Mais bon, ce mouvement existe. Ce sont surtout les jeunes gens qui militent activement. Certains sont politisés. Ils sont de gauche, donc beaucoup d'eux sont libertaires. Ce que je sais, il y a d'autres qui ne sont pas trop politisés, mais qui détestent les fascistes, tout simplement. Mm-hmm. Voilà.
Donc, est-ce qu'il faut ça, enfin, juste pour éclairer là-dessus, apparemment, bon, il est difficile de, enfin, tout par exemple les concerts punk, etc., sont clandestins. Enfin, il y a toute une mouvance aussi autour de la musique chez les jeunes antifascistes. Donc, enfin, ça se traduit par des groupes de musique, etc., et qui font donc des concerts clandestins. Et quand on va à ces concerts-là, on risque très souvent de se faire casser la gueule.
Les concerts ne sont pas forcément clandestins, mais vraiment, il y a eu des antifas qui ont été tués quand ils sont allés au concert de musique. Mais c'était vraiment des militants antifas.
Donc, du coup, ça pose la question aussi de qui. J'imagine que tu n'as pas forcément de réponse claire là-dessus, mais qui est derrière toutes ces intimidations, ces agressions, ces assassinats. Quelles sont les hypothèses? Enfin, parce que bon, la police ne fait rien.
Je peux dire vraiment que des hypothèses, mais bon, je crois que. On a déjà parlé un peu, mais ce sont des mêmes personnes, peut-être des mêmes organisations, qui ont tué, par exemple, les migrés, les antifascistes. Ce sont les mêmes fascistes, parce qu'ils ont leur site en Internet, et sur leur site, ils publient les listes noires. On peut le dire en français.
Bon, oui, tout à fait.
Bon,
oui.
Les listes de proscription, quoi, des militants antifas et des militants de gauche. Ils ont mis dans ces listes non seulement les antifas, mais aussi des militants de gauche, des militants de droits de l'homme, donc des personnes connues, des journalistes. Bon, ça existe. Donc, ça peut être les mêmes personnes, les mêmes organisations. Mais on ne sait pas, la police ne se hâte pas à les rattraper.
Et là, j'ai les chiffres sous les yeux qui sont publiés par l'excellente... revue antifasciste en Russie qui a été faite par le SRA, c'est diffusé par Barikata, peut-être on pourra donner les coordonnées après. Et là, donc, ils mélangent, on va dire, violence raciste et antifasciste. Et sous ces deux thèmes, le chiffre, c'est en 2007, 653 victimes, dont 73 morts. Entre janvier et mai 2008, donc les derniers chiffres connus, 250 victimes, dont 59 morts. À la fois sur la répression sur les antifascistes et les violences racistes. Peut-être, Julia, tu peux rappeler le groupe qui s'est vanté d'avoir fait 20 meurtres lors de descendre sur des marchés. C'est vraiment les violences racistes.
Bon, il y a plusieurs groupes de l'extrême droite qui font les violences au marché. C'est parce que beaucoup de vendeurs, de fruits notamment, viennent du sud de la Russie ou des républiques de l'ex-Union soviétique. C'est une cible principale, ainsi que d'autres immigrés, par exemple les constructeurs des bâtiments. Il y a beaucoup d'immigrés qui travaillent là-bas, donc ils sont aussi, ou des nettoyeurs. Mm-hmm. Ils sont assez ciblés par les fascistes.
Mais donc, du coup, alors, c'est évident que les groupes fascistes sont actifs, sont très actifs en Russie, ne sont pas particulièrement inquiétés, donc, d'après ce qu'on voit, et donc font des victimes. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que... Enfin, c'est difficile de trancher et d'avoir des preuves là-dessus, mais est-ce que le pouvoir n'a pas une part d'implication aussi là-dedans, au moins en laissant faire, enfin, je ne sais pas.
On laisse faire, oui. Oui. Il y a même des organisations, à mon avis, de l'extrême droite, créées par le pouvoir. Par exemple, il y a une organisation de jeunesse qui s'appelle « Местные, les gens du quartier ». Qui était créé par le gouvernement de la région de Moscou, de banlieue de Moscou. Et ces jeunes s'occupent surtout à la chasse aux immigrés. Mm. Ils font la chasse au marché, ils font les piquets de grève contre les immigrés, etc. Il y a 10 jours, ils ont organisé un pareil piquet de grève à Moscou. Les anarchistes ont organisé leur contre-piquet à côté pour protester contre ce racisme en réalité.
En fait, enfin, sur la justice, on peut parler d'impunité, c'est-à-dire que les fascistes sont pas vraiment inquiétés, ou du moins quand ils le sont en termes hooligans, c'est de la violence, on retient pas le caractère raciste dans la violence, mais par contre, quand on inquiète des antifascistes, là, on les suspecte de terrorisme, en fait, quoi. Oui, là, on prend le caractère politique en compte, quoi.
Oui, oui. Et ce que je lisais sur, par exemple, le site de Barricata, c'est que les antifascistes qui se défendent après des agressions de fascistes sont eux-mêmes inculpés, les fascistes jamais. Enfin,
ça existe. Ils se défendent, il y a des antifas qui sont en prison à cause de bagarres, mais même les juges d'instruction leur disent que vous êtes ici pour être antifa.
New York, Anarchia.
Et ça, c'était Anarchia de The Ukrainians, donc un groupe ukrainien.
D'accord, donc qui reprenait Anarchie.
Voilà, mais l'anarchie est aussi née en Ukraine. Donc, faut rendre à César ce qui est à César.
Donc, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel, les oreilles loin du front. On est toujours en compagnie de Yulia Gousseva et d'Hélène, des Échos de Grozny. On a essayé de dresser rapidement un tableau relativement, enfin carrément noir de la situation aujourd'hui en Russie. On disait en antenne que, avec la crise économique que les Russes se prennent en pleine poire actuellement, peut-être que il y a une lueur d'espoir, de réveil quelque part.
Oui.
Suite à.
Oui, le seul espoir que nous avons, c'est que la crise va changer le climat social de notre pays. D'un côté, c'est pas bon pour l'économie, de l'autre côté, ça pourra contribuer à changer les choses. Parce que, la situation économique s'aggrave de jour en jour, les prix augmentent, le chômage augmente aussi. Et maintenant, les gens commencent à réfléchir de leur situation, de ce qui se passe dans notre pays. Il y a déjà des mouvements spontanés de contestation en Provence. Pas encore à Moscou, mais on va attendre. Et donc, si les forces de gauche, qui sont faibles actuellement, mais qui existent, et que l'autre, si les syndicats seront récupérés, ces mouvements de contestation, ça pourra changer quelque chose, ça pourra améliorer la situation politique à notre pays, à mon avis. Il faut que les forces de gauche, les syndicats mettent plus de conscience sociale dans ces mouvements qui sont actuellement spontanés et isolés.
Ok, et donc, pour essayer de finir sur une lueur aussi d'espoir un peu par ici, enfin, je sais pas, oui, Hélène, tu
veux... Ouais, mais enfin, t'as raison, on a dressé un tableau clair, noir, pardon, parce que justement, il est noir et malheureusement, les derniers événements le prouvent bien. Mais on a le même souci avec Côte Grozny, c'est-à-dire que et c'est ce qui se passe en France aussi, c'est quand on parle de la Russie, c'est toujours très très noir. En gros, en Russie, soit t'es buté par un mec de la mafia, soit t'es bouffé par un ours à la coin de rue. Faut arrêter de délirer. Il y a des gens qui luttent en Russie. Alors évidemment, par rapport à ici, ils sont peu, mais il faut voir que leurs conditions de lutte, il y a une prise de risque qui n'est pas comparable à celle qu'on prend. Ouais. Et que justement, moi, j'aimerais qu'on parle des victoires qu'arrivent à avoir quand même certains Russes, parce qu'ils en ont. Ce sont des gens qui luttent. Donc, Yulia parlait de mouvements isolés. C'est vrai que peut-être parfois, il y a des luttes isolées sur des thématiques différentes, etc. Et moi, j'en ai un peu marre qu'on regarde toujours à l'ouest, l'exemple sud-américain, ou qu'on se préoccupe de ce qu'il y a au sud, etc. Et on a vraiment du mal à tourner nos yeux vers l'est, alors qu'on devrait, parce que justement, eux, la répression, elle est forte, et qu'ils continuent quand même de lutter, et que je pense quand même que ces histoires de soupçons terroristes pour les gens de gauche, etc., c'est des choses qu'on connaît ici, quoi. Ouais, ouais. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'échos entre la Russie et la France, alors évidemment, à des degrés différents, mais voilà, la solidarité, elle est, je pense qu'ils sont... Faut pas les laisser isolés, quoi.
Voilà, alors quelle forme de solidarité ici, à ton avis, on
a besoin beaucoup de solidarité pour que les militants ne se sentent pas seuls, isolés. On a besoin de diffusion d'informations, on a besoin de soutien. Par exemple, ce que fait les compagnons français le 1er février, ce manif, c'est très nécessaire. Et en fait, vous êtes... mieux placé que nous pour influencer les autorités. Vous pouvez influencer les vôtres. Vous avez plus de démocratie que chez nous. Pour que les vôtres exercent aussi une pression sur notre gouvernement qui ne veut rien entendre de l'intérieur du pays. Et par contre, on ne fait qu'intimider ceux qui osent de protester.
Voilà, donc la Russie, c'est difficile à comprendre, mais on peut comprendre et on peut aller en Russie. Et voilà, il y a plein de réseaux militants. Sur le net, il y a plein de sites militants et je pense qu'il faut y aller. On serait accueillis, à mon avis, quoi.
Ouais, il faut donc les soutenir et voilà. Merci à vous deux d'être venus. On va rappeler les initiatives à venir cette semaine. Vendredi,
c'est la Projo, donc sur le Caucase, le film Babel Caucase, à 20h30 à Confluence, au métro Alexandre Dumas, à 22h, donc vous pourrez retrouver Yulia pour discuter un peu de la Tchétchénie. Parenthèse, on sera aussi demain, on va faire un point de tractage dans la grosse manif. Je pense qu'on sera aux environs de Bonne Nouvelle. Et dimanche, donc le lieu de rassemblement a changé. On sera pas à Beaubourg, on sera à la Fontaine des Innocents à 15h. Donc ce sera un rassemblement en mémoire donc de Stanislas Markelov et d'Anastasia Baburova. Parallèlement, je citais le travail qu'on fait le réseau Antifa, qui s'appelle Antifasciste en Russie aujourd'hui, qui est un hors-série de Nos Passaranes, Barricata, ça coûte 4 euros. Et je pense qu'on peut le trouver à Publico, Quilombo et tout ce qui finit en O et qui est bien.
Oui, il est très bien fait. Donc merci à vous.
Merci.
C'était une nouvelle édition des Oreilles loin du front. On était donc ce soir en compagnie de Lilia Goulseva et de Hélène des Échos de Grozny. Donc sur ce qui passe sur cette antenne, Hélène, rappelle-nous le jour de diffusion.
Deuxième lundi de chaque mois à 19h jusqu'à 20h30, rediff le jeudi matin. Le site c'est http://echodegrozny.free.fr.
D'accord, et toutes les infos de toute façon sur rfpp.net. On était ce soir hyper nombreux dans le studio et on s'en réjouit pourvu que ça dure. On avait Juliette, Jérémy, Raphaël, Pierre, Aude, Sophie. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. On est rediffusé le vendredi de 12h30 à 14h. Et puis, vous pouvez aussi aller faire un tour sur notre site pour retrouver toutes les dernières émissions. On met à jour dès qu'on peut, mais on fait des efforts, tout va bien. Le site, c'est www.loldf.org. Et on vous laisse tout de suite dans les bras des Échos du Capricorne.